Voici 100% CH avec Richard Labbé.
Comment allez-vous, mon cher Richard?
Salut Greg, je vais très bien, toi-même?
Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'être là pour notre dernier Tailgate Weekend de la saison. D'ailleurs, je veux te remercier. Je ferai les remerciements d'usage à la fin de cet entretien. Richard, copier-coller de la finale de la Coupe Stanley de l'an dernier.
Mm-hmm.
Et là, je te pose la question. En quoi les Oilers sont-ils ou est-elle une équipe différente qui peut cette fois-ci aller battre les Panthers et ramener la Coupe au Canada pour la première fois depuis 1993?
Et Greg, question très pertinente que je t'ai suggéré moi-même d'ailleurs.
Ouais. Je suis content que tu qualifies ta propre question de très pertinente, ça va de soi.
Écoute, la pertinence commence par soi-même, Greg, dans la vie. Hein? Ça, c'est, faut jamais oublier ça.
Si nous sommes pas notre propre fan numéro un, qui peut l'être?
Exactement. C'est une autre très bonne question, d'ailleurs.
C'est un peu sarcastique là, pour ceux qui sauteraient sur le clavier pour nous blâmer de ça. C'était une blague.
Oui. Mais ce qui n'est pas une blague, par contre, Greg, c'est la différence de cette équipe-là. On parle des Oilers d'Edmonton, évidemment. En quoi sont-ils différents? Écoute, l'an passé, quand l'équipe a perdu de manière absolument déchirante, là, souvenez-vous, là, Connor McDavid, qui était même pas capable de... qui voulait même pas aller chercher son trophée Conn Smythe, il était inconsolable, au bord des larmes. Ça a été pour les Oilers une défaite qui a été très, très dure à encaisser parce qu'on croyait authentiquement qu'on avait une excellente chance de gagner la Coupe. Évidemment, ce n'est pas arrivé. Les Panthers ont gagné en 7. Par contre, ce qui s'est passé, Greg, et ce sont des collègues d'Edmonton qui me contaient ça récemment, au cours de l'entre-saison et à partir du camp d'entraînement, on a mis un point d'emphase sur changer un petit peu l'identité de l'équipe. C'est-à-dire qu'évidemment, on savait que les Oilers... avec les gros canons que l'on connaît. Et on savait évidemment que c'est un club à caractère offensif. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on a voulu faire acheter au reste de l'équipe, à tout le monde, les défenseurs, les attaquants, les vedettes, les pas vedettes, les gars de quatrième trio, peu importe, tout le monde. On a vendu le concept de jouer de manière beaucoup plus agressive, de un, et beaucoup plus responsable en défensive. Et... c'est pas grand-chose. On n'a pas changé 6 défenseurs. On n'a pas embauché 8 joueurs autonomes. Là, c'est pas ça qu'on a fait. Mais on a vendu ce concept-là. Et Greg, ça me rappelle un peu ce qui est arrivé. Souviens-toi, du côté de Washington, où on disait que jamais de la vie, les Capitals vont être capables de gagner une Coupe Stanley parce que c'est impossible de faire comprendre à Alex Ovechkin qu'il y a 3 zones au hockey puis il faut que tu joues dans les 3. Et à un moment donné, il y a un gars qui s'appelle Barry Trotz qui est débarqué là-bas et qui a réussi, et ça, c'est un tour de force, Greg, là, qui a réussi à faire comprendre à Ovechkin et à certains de ses coéquipiers, écoute, on n'ira jamais nulle part. Oui, vous marquez des buts. Oui, vous créez des chances de marquer. Mais on n'ira jamais nulle part tant que vous n'allez pas comprendre l'importance de jouer dans tous les territoires. Et c'est un peu le modèle qu'on tente de calquer du côté des Oilers. On est conscient du talent offensif qu'on a. Mais on a fait comprendre à tout le monde, incluant le numéro 97 que j'ai vu se lancer devant des tirs, devant des lancers lors du 5e match à Dallas. Là, c'est quand même quelque chose. Là. On a réussi à leur faire comprendre l'importance d'un système défensif. Et de toute évidence, ça marche. Et je pense que les Panthers vont avoir un club vastement différent devant eux à compter le mercredi à cause de ça.
Ouais, puis tu sais, oui, ça s'est réglé en 7 matchs l'an dernier, mais les Panthers menaient 3-0. C'est un peu cette énergie du désespoir et, je veux dire, tu l'as dit, là, les deux grosses stars offensives qui s'étaient levées, là, si ma mémoire est bonne, pour que ça s'amène en 7, mais finalement, les Panthers, est-ce qu'on avait une meilleure formation qui a fait qu'on a remporté la Coupe Stanley? Quelle est ta prédiction? Toi, tu dis un club vastement différent. Mais, ouais. Parce que là, je vais devoir le demander à tout le monde, tu sais, quelle est votre prédiction pour la finale de la Coupe Stanley? Quelle est la tienne, mon cher Richard, d'ailleurs?
Hey, Greg, d'ailleurs, te souviens-tu de ma chronique du crois que c'était le 22 avril, Greg, je me trompe pas, ça se peut-tu? C'était-tu un dimanche, ça? Je me souviens
plus. Ça se peut fort bien, 22, 23, 24, quelque chose de même. Là.
C'était le début des séries et les Kings affrontaient...
C'était le 20, dimanche le 20.
Le 20, hein, j'étais pas loin. Tes Kings, Greg, affrontaient...
Merci de me
les Oilers, et tu m'avais demandé ma prédiction. Oui, mais tu m'avais demandé ma prédiction, puis je t'ai dit la même chose que je vais te dire maintenant. En septembre, j'ai dit que les Oilers d'Edmonton allaient gagner la Coupe Stanley, alors je ne vais pas changer d'idée maintenant. Alors, je vais donner encore la victoire aux Oilers. À date, ça va très bien. J'ai remporté mes prédictions avec les Oilers dans les trois tours, alors je ne vais pas changer maintenant. Alors, je vais dire Oilers dans une série âprement disputée en 6.
En 6, hein? Tu y vas pas en 7. Je suis un peu dans le néant dans cette prédiction-là. Je sais qui j'aimerais voir remporter la Coupe Stanley. On va vous révéler ça tantôt, Jacob et moi. Je vais prendre les prédictions de Jacob aussi. Mais on note bien ta prédiction de 6 matchs pour cette finale et une victoire des Oilers. La Coupe qui revient enfin au Canada. Enfin! Mais selon toi, là, Richard, oui, on a Leon Draisaitl. On a Connor McDavid. On a un joueur qui a compté plus de buts que les plus grandes stars offensives de cette ligue-là dans les dernières années en séries éliminatoires, en Corey Perry, qui lui est monsieur final là, et qui pourrait être monsieur deuxième coupe Stanley. Je pense que ça y ferait du bien et que les Oilers voudraient le faire pour lui en partie. Mais il y a un joueur qui pourrait changer la LNH à lui seul lors de cette finale. J'ai hâte de t'entendre là-dessus.
Ouais. C'est le gardien de but, Greg.
Lequel?
on présume que c'est Stuart Skinner qui va être devant le filet des Oilers. J'espère qu'ils ne se feront pas remplacer parce que ma théorie tient à ça. Mais pourquoi je veux te parler de Stuart Skinner? Puis ça dérange pas, regarde, s'ils mettent l'autre gars, ils mettront l'autre gars. La théorie va être bonne
si
pareil.
Si tu m'avais dit dans n'importe quelle de tes chroniques, là, que ce soit en 2022, que ce soit dans n'importe quel des dimanches que tu étais avec nous, si tu m'avais dit que ton dernier sujet serait « Est-ce que Stuart Skinner peut changer la LNH à lui seul? » Je t'aurais jamais cru.
Oui, mais écoute, maintenant, je vais te dire pourquoi. Et ça, c'est le bout qui est important. C'est parce que, évidemment, et puis là, c'est drôle parce que de l'autre côté, vous allez voir vraiment complètement un changement de philosophie. Là, si vous regardez du côté des Panthers, eux autres, on a un gardien qu'on paye très cher, en haut de 10 millions de dollars par saison. Les Oilers, cette année, ensemble, les deux gardiens, c'est 3,6 millions. Et tu vois, à chaque fois qu'on a fait nos prédictions, Greg, pas seulement nous deux, mais nos autres collègues des médias, puis du côté américain aussi, à chaque fois qu'on commence à parler d'une prédiction dans une série qui implique les Oilers, j'entends toujours la même chose. Ah, ben avantage Stars devant le filet. Avantage Kings devant le filet. Avantage n'importe qui devant le filet, parce qu'on dit toujours que les Oilers sont vastement désavantagés avec Skinner. Mais on ne prend pas ça du bon côté, je te dirais, parce que Skinner, ce n'est pas la raison des succès des Oilers. Les Oilers ne sont pas bâtis pour devoir gagner avec le gardien de but. T'sais, on a longtemps vu un petit peu cette formule-là à Montréal. On donnait beaucoup d'argent au gardien de but. Malheureusement, pour le Canadien et pour ses partisans, ça n'a pas donné les résultats escomptés. C'est pas seulement, évidemment, la faute du gardien, mais je veux juste te dire ça parce qu'un plafond salarial et tu donnes un pourcentage d'argent à tes défenseurs, à tes attaquants et à tes gardiens. Les Oilers ont décidé, eux, qu'avec leur structure, avec les joueurs qu'ils ont sous la main, ils n'ont pas besoin de payer un gardien de but 10 millions de dollars par saison. Alors, on met beaucoup d'argent en avant, évidemment. On n'a pas besoin de les nommer, là, mais il y a beaucoup de joueurs vedettes du côté des Oilers en avant. En arrière, devant le filet, on donne presque rien. On donne, comme je viens de le dire, on donne 3,6 millions ensemble, les deux, la saison dernière. Ce que ça fait, c'est que là, on est en train... puis on va voir ce que ça va donner. Mais imagine-toi un instant que les Oilers gagnent la coupe avec Stuart Skinner. Il va y avoir des gens qui vont te dire c'est probablement le pire gardien de l'histoire du hockey qui soulève la coupe. Il y a des gens qui vont dire ça. Mais ça ne dérange pas parce que c'est pas un joueur qui est important chez les Oilers d'Edmonton. On lui demande d'être adéquat, évidemment. On lui demande d'arrêter des rondelles, évidemment. Mais si on regarde Greg un petit peu le cinquième match là, face aux Stars, 21 tirs bloqués devant Skinner. Alors, quand je te parlais tantôt de changement d'attitude, de changement de visage du côté des Oilers, c'est un peu ça. On se garoche devant les rondelles, on fait en sorte que l'adversaire a moins de chances de premier plan face à Skinner, et on ne demande pas à Skinner de voler des matchs, on lui demande d'être adéquat. Et il a été ça. Il a été ça depuis le début des séries. Et honnêtement, moi, je pense que c'est une ligue, on dit en anglais, copycat league, hein. Souvent, on dit ça. Quand il y a quelqu'un qui a du succès, les autres tentent de copier cette recette-là. Ça va être intéressant parce que si les Oilers gagnent avec ce joueur-là, avec ce gardien-là que tout le monde s'accorde pour dire que c'est le pire de la ligue, ben, est-ce qu'on va revoir les montants d'argent qu'on donne devant le filet? Ça va être vraiment intéressant.
Ben écoute, malgré ça, t'as des organisations qui y croient. T'sais, Shesterkin vient d'avoir un gros contrat. Les Jets croient en Connor Hellebuyck. Les Stars en Jake Oettinger. Et ça, je pense que ça dépend vraiment des organisations. T'sais, en même temps, combien t'as devant le filet chez les Maple Leafs de Toronto? Et combien que t'as en avant? Puis cette formule-là, force est d'admettre que ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, je pense que les Oilers sont bâtis. Et puis là, je ne vais pas commencer à dire que j'ai cru en les Oilers depuis le début des séries éliminatoires. Je ne les ai pas pris pour remporter une série. Mais mea culpa. Non, mais j'avais pris les Kings, j'avais pris les Golden Knights, puis j'avais pris les Stars, puis ils m'ont grandement surpris. Mais force est d'admettre que tu as des gars qui jouent des rôles incroyables en séries éliminatoires dans cette série-là. Et tu l'as dit, on a vendu le système à ces joueurs-là qui sont portés par... J'en ai parlé hier, là. Ramenez-vous à cette photo-là dans le vestiaire. Tous les joueurs qui sont assis en silence, t'entends le building en Floride qui est sans dessus-dessous parce qu'on est en train de célébrer cette victoire en 7 matchs de la finale de la Coupe Stanley. Et t'as les gars qui sont assis silencieusement, qui viennent de perdre cette Coupe Stanley-là. Je pense que ça les a portés ailleurs cette saison. Puis Stuart Skinner, écoute, il était pas sur le radar de personne, mais force est d'admettre que depuis quoi? Une série et demie, performe puis pas à peu près. Là. Depuis qu'il est revenu devant le filet, il a connu des blanchissages. C'est un travail d'équipe ultime, les Oilers d'Edmonton. Est-ce que ça va changer quelque chose? En même temps, qui était devant le filet pour remporter la Coupe Stanley en 2022 pour l'Avalanche du Colorado? Il y en a des gardiens de but comme ça qui ont fini par remporter avec des équipes de très, très haut talent, là, qui ont des joueurs qui font partie du top 5 de la Ligue, autant en attaque qu'en défense.
Oui, ben puis tu m'as même reculé. Moi, honnêtement, on va voir ce que ça va donner avec les Oilers, mais cette approche-là, elle remonte aux Blackhawks. Là. Souviens-vous, les Blackhawks ont gagné une Coupe Stanley avec Antti Niemi devant le filet. Ouais.
Corey Crawford, Antti Niemi ont été les gardiens qui ont gagné ces trois coupes-là. T'as Aiden Hill avec les Golden Knights. C'était Grubauer.
Matt Murray,
effectivement. C'était Grubauer ou c'était... c'était Grubauer qui était avec l'Avalanche à ce moment-là. Ouais. Grubauer, je vais le prononcer de bonne façon. Ça a mis Jordan Bennington sur la map, en fait. Chris Osgood a gagné. Merci Valentin sur la messagerie texte également. Fait que t'en as plusieurs comme ça qui vont chercher les Coupes Stanley.
Oui, puis tu sais, on n'est plus à l'époque aussi. Il y a eu un temps là où si tu avais un gardien de but dominant, ça voulait dire qu'éventuellement, tu allais gagner la coupe. Là. Si tu avais Martin Brodeur, si tu avais Patrick Roy, à un moment donné, ça allait marcher. Parce que tu sais, dans les années, en particulier dans les années 90, où le jeu était tellement refermé, où on avait le droit de tout faire en défense. Là. Souviens-toi, là, aller voir des vieux vidéos de Scott Stevens. Tu as le droit de retenir un gars, tu as le droit de donner une jambette, tu as le droit de faire la prise de l'ours, tu as le droit de faire la prise du sommet. Tu avais pas mal le droit de faire ce que tu voulais dans les années 90 en défense.
C'était Darcy
Alors,
Kemper,
si
je m'excuse, j'ai fait un
gardien de but de premier plan.
C'était Darcy Kemper.
Écoute, j'ai fait la même erreur que toi.
Ouais, ben en fait, je pense que Grubauer avait joué dans les séries aussi, mais c'est Darcy Kemper qui l'avait soulevé. Tu ramènes Martin Brodeur. Regarde le système de jeu qu'il y avait en avant de lui aussi. Martin Brodeur fait partie des trois meilleurs gardiens de la Ligue nationale de l'histoire, selon moi. Mais regarde, il a joué, il y avait la trappe en avant de lui avec toute une défensive et ça amenait à des Coupes Stanley également. Là. Donc, le système de jeu en avant tu peux pas mettre ça de côté non plus.
Non, 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 absolument. Mais tu sais, il y a eu une époque, je pense que tu avais des gardiens d'élite clairement qui étaient meilleurs que d'autres. Et si tu avais un de ces gars-là, tes chances de remporter une Coupe Stanley est excellente. Maintenant, aussi, l'autre chose, Greg, c'est que tu sais, si tu me nommes peut-être, la plupart des gens vont dire que Connor à l'époque est le meilleur gardien. En tout cas, la majorité des gens vont dire ça maintenant. Mais quelle est la différence vraiment entre Connor et les Bucks et mettons les 10 autres meilleurs après lui? T'sais, y a-t-il une énorme différence? On est dans un style de jeu chez les gardiens où ça se ressemble beaucoup. On n'est plus comme dans les années 80-90, justement, où les gars comme Patrick Roy, qui bénéficiaient d'un coach de gardien. À l'époque, ça n'existait même pas. Là. Patrick Roy, il y avait François Allaire avec lui, qui avait du coaching en avance, des années-lumière en avance sur le coaching qu'il y avait, par exemple, en Europe ou aux États-Unis. Mais là, c'est un avantage marqué. Maintenant, tout le monde a à peu près le même style de coaching. Tout le monde a les mêmes informations. Tout le monde a une connexion Internet. Fait que il n'y a plus cette différence-là marquée. T'sais, à l'époque, si tu avais Patrick Roy devant ton filet, puis l'autre bord, tu avais Chris Terry, des bonnes chances que tes chances de marquer étaient de gagner étaient meilleures avec Patrick Roy. Maintenant, tu peux avoir Sergei Bobrovsky d'un bord et tu peux avoir Skinner de l'autre bord et tu peux battre l'équipe que Bobrovsky. Alors, c'est vraiment, je te dirais, quelque chose qui a commencé à changer depuis quelques années. Et si les Oilers gagnent avec le gars que plusieurs considèrent comme le pire gardien de la Ligue, ben pour moi, ça va ressembler peut-être même à, j'allais dire une révolution, c'est peut-être un trop gros mot, mais en tout cas, ça va, je pense, apporter du changement.
Merci, mon cher Richard, et merci pour cette belle saison. Déjà hâte de te reparler. Puis la beauté de tout ça, c'est que l'an prochain, tu auras maintenant beaucoup de matériel pour me ramener sur tes chroniques de toutes les dernières années. Ça a été un grand plaisir de te côtoyer tout au long de la saison. Passe un très bel été, puis nous, ben, on se reparle sous peu.
Ouais, avec grand plaisir, Greg. Le plaisir a été partagé. Merci aux gens qui ont écouté, puis on se reparle très bientôt.
Merci, mon ami.
Salut bien!
L'excellent Richard Labbé de La Presse. On prend un petit 2 minutes. Pat Friolet s'en vient dans à peu près une douzaine de minutes, mais on s'en va jaser du Grand Prix de Formule 1 d'Espagne. J'ai dit que Max Verstappen n'a échappé le championnat.
Ouais.
Ça a fait sauter Jacob, ça.
Ouais,
je veux me questionner à ce sujet. On revient dans 2 minutes.